Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Alors aujourd'hui, nous recevons Michel Sidorov. Michel Sidorov, est-ce que vous venez pour la première fois à Radio Libertaire ?
Eh bien, tout d'abord, bonsoir à tous, bonsoir Bernard et bonsoir aux auditeurs de Radio Libertaire. Non, si ma mémoire est bonne, c'est la deuxième fois que je viens à Radio Libertaire. Je suis venu une première fois, je crois bien, c'était au moment de la guerre du Golfe, si ma mémoire est bonne, la première guerre du
Golfe. Très bon moment voilà. Pour s'opposer à la guerre, mais quand même, vous êtes un homme de radio.
Oui.
Vous êtes un homme de radio, donc vous allez nous excuser pour les petites, si nous avons des petits problèmes à Radio Libertaire. On n'en a jamais,
oui,
d'ailleurs.
Oui. Mais je suis un homme de radio, mais j'ai justement, parce que je suis un homme de radio, que, comme réalisateur, j'ai travaillé aussi le son, puisque je fais partie d'une génération de réalisateurs qui a eu une certaine formation technique, c'est-à-dire qu'on avait le droit d'utiliser le Nagra stéréo, si vous voulez. Donc j'ai travaillé aussi la prise de son dans des conditions très très sportives. Donc voilà, je ne suis pas totalement dépaysé.
Et puis le Nagra, c'était assez lourd quand même.
Oui, 16 kilos.
Oui, 16 kilos. Après, on a sorti un modèle un peu plus léger.
Voilà, numérisé, mais quand vous enregistriez des ambiances pendant 10 heures d'affilée avec le Nagra sur l'épaule, c'était sportif, mais bon.
Et quand j'ai tourné une fois à Radio France, j'ai vu des journalistes dames qui le trouvaient tellement lourd qu'elles le faisaient dégringoler dans les escaliers. Eh bien, il était super solide, le Nagra.
Oui, c'est très costaud.
Il était super solide. Bon, alors on va parler de radio, bien sûr, on va parler de France Culture. Je dois dire que c'est quand même surtout à France Culture que vous avez fait beaucoup de choses dont on va reparler. Et puis, si vous êtes là aussi aujourd'hui, c'est que vous êtes engagé contre les guerres, on va en reparler. Et Michel Sidorov, vous êtes aussi un libre penseur. Alors, la Libre Penseur, c'est là que je vous ai rencontré devant le Café du Croissant le 11 novembre, là, il y a quelques jours. Et justement, qu'est-ce que vous faisiez devant le Café du Croissant le 11 novembre ?
Eh bien, d'abord, nous étions devant le café et nous aurions aimé pouvoir aussi nous y retrouver.
Peut-être pour les jeunes qui nous écoutent,
oui.
Le Café du Croissant,
mais oui.
C'est l'endroit où a été assassiné Jean Jaurès en 1914.
Absolument.
Voilà, on précisait.
Absolument, le 31 juillet 1914. Oui, nous avions rendez-vous devant le Café du Croissant qui était fermé ce jour-là. Nous ne pouvions pas organiser ensuite de réunion, c'est bien dommage. Mais les circonstances étaient très particulières parce que, en même temps, le même jour, il y avait un soi-disant sommet de la paix au Palais Brongniart, à la Bourse, avec les représentants de nombreux pays. Et évidemment, pour nous, c'était plutôt symboliquement un sommet de la guerre. Voilà.
Alors justement, la Libre Pensée appelle souvent le 11 novembre à des rassemblements. Nous avons participé, nous, l'Union Pacifiste, avec la Libre Pensée, une fois devant le cimetière du Père Lachaise, une autre fois. Alors, ça change chaque année de lieu, comme ça ?
Alors oui, disons qu'il y a des manifestations qui prennent un caractère, je dirais, national, avec la Fédération Nationale. C'est le cas, c'est arrivé plusieurs fois à Gensioux, par exemple, où il y a ce célèbre monument qui est absolument bouleversant. On voit un enfant qui lève le poing et qui montre la liste des morts de Gensioux, n'est-ce pas ? Et c'est inscrit maudite soit la guerre. Mais il y a d'autres manifestations, et en particulier, cette année, il y avait un rassemblement à Chauny,
oui.
Devant le monument des fusillés, pour l'exemple, monument que la Fédération Nationale de la Libre Pensée a fait construire, n'est-ce pas ? Et donc, c'était un rassemblement très important. Il y avait d'ailleurs un certain nombre d'organisations. La Fédération de Paris, pour sa part, comme d'autres fédérations, avait sa propre manifestation, bien sûr. Il se trouve que, bon, il y a quelques semaines, j'ai été élu président de la Fédération de Paris, et cela me donne pas mal de travail, mais je suis à la fois très fier et très heureux d'avoir ces tâches à remplir.
Alors, devant le Café du Croissant, il y avait aussi un élu, Rodrigo Arenas, que nous saluons aussi, parce que on va reparler de Rodrigo Arenas, parce qu'il s'oppose au service national universel, alors ce qui nous, bien sûr, nous fait plaisir, et on est d'accord avec lui. Et puis ce fameux forum de Paris sur la paix, je me suis quand même un petit peu renseigné, qui se passait donc au Palais Brongniart, dans le local de la Bourse des Valeurs. Et c'était quelque chose qui a été créé, alors je ne connaissais absolument pas, en 2018 par Macron. Et cette année, donc, était invité le président de l'Argentine, de la Guinée-Bissau, du Venezuela et de Colombie. Et le canard enchaîné, justement, de cette semaine s'en est moqué en mettant le Nobel de la paix pour Macron. Rien que ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Macron, maintenant, se place à l'extérieur pour avoir une posture internationale. Et alors, moi, j'ai regardé quelques vidéos qui sont diffusées sur YouTube de ces réunions au Forum de la paix, alors justement, de 2022, là, il y a quelques jours. Et il y a à peu près 400 personnes qui viennent du monde entier, qui sont invitées là pour parler. On ne sait pas trop de quoi, mais en tout cas, peut-être pas simplement de pacifisme. Voilà. Donc, c'était quand même... Mais enfin, nous, notre rassemblement représentait quand même quelques cinquantaines de personnes, disons. Et puis, il y a eu quand même une prise de parole, dont la vôtre.
Voilà, il y a eu plusieurs prises de parole.
Qu'est-ce que vous avez dit en résumé ce jour-là?
En résumé, j'ai réagi à chaud, comme cela, au fait que nous étions en parallèle avec ce sommet de la paix.
Et tout le quartier était bouclé par la police.
Et tout le quartier était bouclé et la préfecture nous avait interdit d'utiliser une sonorisation pour ne pas troubler, n'est-ce pas, les participants à ce sommet.
Qui était à plusieurs centaines de mètres.
Qui était évidemment à plusieurs centaines de mètres. Mais il ne fallait surtout pas leur faire concurrence. Et, en tout cas, il était impossible donc d'utiliser une sono. Il a fallu donner de la voix. Le discours, je l'ai, par ailleurs, ma deuxième intervention, j'ai lu le discours que la Fédération nationale, c'est-à-dire Christian Eschen, secrétaire national, avait préparé, et que je trouve vraiment excellent, et qui reprenait d'abord l'état des lieux quant à la bataille pour la réhabilitation collective des fusillés, pour l'exemple. Alors, bien sûr, il y a cette victoire à l'Assemblée nationale, grâce aux députés lors de la précédente législature, aux députés de la France insoumise, qui ont été soutenus par d'autres députés, bien sûr, et la loi est passée. Alors, la présence de Rodrigo Arenas était pour nous plus qu'un symbole, c'est vraiment une aide. Cela signifie que nous pouvons compter sur certains députés, et il va falloir évidemment continuer cette mobilisation, parce que maintenant la chose doit être validée par le Sénat. La loi doit être validée par le Sénat. Donc, l'action de parlementaires de l'Assemblée nationale en direction de sénateurs peut être utile. De même, d'ailleurs, que l'action d'organisations syndicales, par exemple, qui prennent position pour la réhabilitation des fusillés, pour l'exemple. Pour les organisations syndicales, nous avons une liste, nous avons réussi à établir une liste, bon, elle n'est pas définitive, mais tout de même, une liste des ouvriers, si vous voulez, fusillés, pour l'exemple. C'est assez parlant pour les organisations syndicales.
Alors, je rappelle qu'il y en avait quand même... Enfin, sont répertoriés 639. 639 en France.
En France.
Il y en a eu beaucoup plus en Italie.
Oui.
Il y en a eu aussi en Angleterre, il y en a eu dans tous les pays.
Oui, en Autriche-Hongrie, à l'époque c'était l'Autriche-Hongrie, et il y en a eu un peu plus aussi, bien sûr. Bon, en Belgique, il y en a eu moins. En Angleterre aussi, oui.
Alors, il y en a quelques-uns qui ont été réhabilités, très peu, au cas par cas.
Ouais.
Je ne sais pas, moins d'une dizaine, je crois. Et maintenant, ce qu'on demande, alors ce que la libre pensée demande et que nous demandons nous aussi,
oui, oui,
c'est que les 639 soient tous en bloc réhabilités. Donc, on se rappelle que c'est quand même la guerre de 14-18 qui
absolument
a fait plusieurs millions de morts.
Plusieurs millions de morts, oui.
Voilà, donc... On a parlé un peu de cette réhabilitation des fusillés. Je signale aussi qu'il y a un dictionnaire Métron des fusillés qui a eu beaucoup d'ailleurs de... qui est paru il y a quelques années. Et il y a des conférences régulièrement autour des historiens du dictionnaire Métron sur ce dictionnaire des fusillés, qui était d'abord les fusillés de 14-18, mais qui s'est étendu ensuite aux fusillés de la guerre de 39-40, etc. Enfin bon, et puis les fusillés, malheureusement, les militaires, ça leur pose pas de problème.
Non.
Alors, on a parlé de Gensioux. Je voulais simplement dire qu'à Gensioux, effectivement, l'Union pacifiste, chaque année, est présente aussi devant ce fameux monument dont vous avez parlé. Et René Burger, qui est un peu notre représentant de l'Union pacifiste du Limousin, je vais lire deux, trois mots qu'il a dit là-bas. Cher orphelin de Gensou, parce que lui, chaque fois, il s'adresse à ce fameux orphelin de Gensou. Au nom de la section française de l'Internationale des résistantes et résistants à la guerre, alors avant on disait que les résistants, maintenant on dit aussi les résistantes à la guerre, l'IRG, le groupe Limousin de l'Union pacifiste vient cette année encore saluer la monumentale intégrité antimilitariste. Donc, après avoir rappelé les horreurs de la guerre actuelle, René Burger cite Sorge Chalandon, qui, dans son livre qui s'appelle « Le quatrième mur », qui est un livre excellent, Sorge Chalandon écrit « La guerre, c'est ça. Avant le cri des hommes, le sang versé, les tombes, les larmes infinies qui suintent des villes, les maisons détruites, les hordes apeurées, la guerre est un vacarme à briser les crânes, à écraser les yeux, à serrer les gorges jusqu'à ce que l'air renonce. » Voilà, donc, et puis il continue, alors René, qui peut croire en 2022 à la protection par une armée, terrorisée, torturée, violée, mutilée, tuée, est-ce que c'est cela se défendre? Le seul moyen d'arrêter les guerres, alors là c'est notre credo, disons, de l'Union pacifiste, c'est d'affirmer haut et fort notre droit au refus de tuer. Accepter de porter une arme, c'est consentir à assassiner d'autres humains. Endosser un uniforme, c'est obéir lâchement à des chefs. C'est commettre des meurtres sur ordre et recevoir des merdailles. Alors, merdailles, c'était le mot qu'utilisait notre ami Mouna, qui en avait
Mouna,
beaucoup, sur son,
oui, que
qui avait beaucoup sur son chapeau. Voilà, ça, c'est ce que disait justement... René Burger devant le monument de Gensou, donc cette année.
C'est un très beau texte, c'est très émouvant, et je trouve que c'est vraiment d'une actualité, c'est le cas de le dire, brûlante, avec l'Ukraine,
voilà,
hein, n'est-ce pas? Avec les peuples russes et ukrainiens qui sont jetés l'un contre l'autre, et qui risquent d'ailleurs d'entraîner encore d'autres peuples. Hein. On a vu qu'avec la Pologne, c'était pas très loin, il y a deux jours. Et la bataille donc pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple se relie naturellement à la mobilisation contre la guerre. Hein. Bah, pour nous, à la libre pensée, là-dessus, je crois que avec l'Union pacifiste, on se rejoint d'une façon très très exacte. Aujourd'hui, si il est confirmé que la loi est adoptée, ce sera un acquis, ce sera un point d'appui pour la bataille contre la guerre, parce que cela mettra à l'ordre du jour cette revendication du droit de retrait. C'est Christian Eschen récemment qui, dans une interview, a déclaré cela, et j'ai trouvé ça très, très bien, parce que ça répond exactement à la situation, parce que aujourd'hui, nous risquons de nous retrouver dans des situations où il peut y avoir des appelés. On sait qu'il y a un danger, justement, avec le SNU qui peut-être prépare, qui de toute façon prépare la militarisation de la jeunesse, mais aussi tous ces jeunes qui sont à l'abandon, qui n'ont aucune perspective, qui sont dans la pauvreté et qui s'engagent dans l'armée, et qui sont des victimes, n'est-ce pas? Mais pour ces jeunes-là aussi, ça signifie que oui, le droit au retrait pourra être invoqué, parce que c'est cela que nous défendons. C'est la raison pour laquelle, dans notre texte commun, nous prenons la défense des déserteurs ukrainiens et russes et des mutins de tous les pays.
De toutes les armées.
De toutes les armées, oui.
Et en période de guerre, c'est plus difficile, naturellement. C'est là que ça devient compliqué. Alors, on va peut-être faire une petite pause musicale, mais je vais... On va écouter un morceau de Michel Buller. Michel Buller, qui malheureusement est décédé là il y a quelques semaines. Et Serge Giroyot, qui est un de nos chanteurs, musiciens que nous apprécions beaucoup, a écrit un petit texte au sujet de Michel Buller. Il appelle ça « Premier lundi de novembre 2022, Bubu ne chante plus ». Bubu ne chante plus, puisque... Et alors Michel Buller, justement, avait participé à des galas pour l'Union pacifiste, et il écrit « L'ami, le frangin, le poète discret, l'anard sympathique, le brave homme, le chanteur nécessaire, l'humoriste tendre, l'humaniste Michel Buller vient de disparaître. Il ne sera jamais la fin de l'histoire des humains d'Ukraine, de Palestine, du Brésil, de la Méditerranée et de tant d'autres ailleurs douloureux. Il ne s'inquiétera plus des lendemains de la planète Terre, il ne rira plus comme un joyeux camarade, il ne s'énervera plus contre les bourgeoises vulgaires et les hommes de main des argentiers, il ne sourira plus comme jamais le voir sourire un peu tristement, furieusement humain. Alors, Serge Girouillot, bien sûr, était surtout chanteur, mais enfin, quand il écrit comme ça, je trouve que c'est aussi assez poétique. Alors, Michel Buller est décédé, Maurice Monté, donc notre secrétaire, nous a dit, et c'est lui qui nous a rappelé qu'il avait chanté beaucoup pour l'Union pacifiste, et il se souvenait d'un chant que nous allons écouter, qui s'appelle, de Michel Buller, « L'espoir ». Alors on va écouter « L'espoir ».
Bien que je sois pas du genre chochotte, à m'effrayer comme un moineau, à peine il vente, à peine il flotte, du genre à faire mon numéro d'inquiet, de voyante extralucide, plantée devant sa boule de cristal. Je vois les ténèbres, le vide, aïe, tout s'écroule, tout va mal. J'avoue que par ces temps exaltants, ce début de millénaire embrumé, je serais, disons, pas franchement d'un optimisme forcené. Bêtement vu les demain qui se préparent, et le pauvre monde comme il va. Oui, mais voilà que j'ai ces bizarres, comme scellé tout au fond de moi. L'espoir. L'homme est souvent pire qu'une ordure, et il l'a prouvé abondamment. Cette qualité-là, c'est sûr, défie les siècles, nargue les ans. Et c'est pas le progrès, pas la bourse, tout ce qui illumine nos aujourd'hui, qui va venir freiner dans sa course l'universelle connerie. Allez demander rien que pour voir à Jenin ou en Haïti comment va le vent de l'histoire. Allez faire un tour à Grozny, ouais, c'est l'horreur et le foutoir, la terre qui saigne un peu partout. Mais j'ai beau le voir et le savoir, je garde envers et contre tout l'espoir. Et pas besoin d'aller à Perpète pour frissonner, monter les tours. Suffit de regarder sous nos fenêtres notre pays débordant d'amour, où les riches sur leur tas d'or se marrent et gouvernent en sous-main, où les pauvres travailleront plus fort et plus longtemps pour gagner moins, où le bonheur c'est chacun pour soi quand il est parmi à bien plus tard. Franchement, pour en arriver là, faut être nul ou le vouloir, où dans les salons du profit flotte une certaine odeur de merde, où tout est fait pour qu'on l'oublie, où tout est fait pour qu'on le perde. L'espoir. L'espoir d'abord, c'est dire non à ceux devant qui l'on s'incline. C'est toujours relever le front quand les autres courbent l'échine. L'espoir, c'est prendre la parole sans demander la permission. Et c'est danser la carmagnole sous les balcons du roi Pognon. C'est cracher au nez des crétins, ceux qui prétendent inéluctable, le ventre tordu par la faim. C'est cogner du poing sur la table, c'est montrer son cul aux sinistres qui possèdent les continents. C'est dire leur fait à leurs ministres, qu'ils soient larbins ou présidents. L'espoir, c'est le respect toujours de tout ce qui palpite et vit. Ça vient de loin des anciens jours, de la mine et du pain rassis. L'espoir, c'est l'évidence belle, que l'on est là mille et cent mille, sans peur aucune, debout rebelle, et que ça n'est pas inutile. L'espoir, c'est plus fort que la mort, la fleur qui perce le goudron, le soleil qui se lèvera encore sur les fûts rouillés des canons. C'est cette flamme qui vacille, ce feu que je tiens dans ma main, fragile et fort comme ma vie, c'est tout ce qui me fait humain. L'espoir.
Per tutta l'esistenza ti avrò.
On continue.
Viva di un'aurora, sconvolgendomi il sangue come un grande tesoro che si potrà conoscere e possedere fino a sazietà. Racchiudevi un mistero di dolore e di gioia profonda, sconosciuta. Un attimo solo di te e mi saresti stata per la vita un ricordo di sogno. Ma non ti sei svelata. Hai saputo il tuo gioco. Sei ritornata a un tratto in mezzo al mondo, rinascondendo in te il segreto degli occhi arrovesciati, della tua bellezza più grande, dell'attimo che gioia e sofferenza si fanno un solo brivido. Mi hai strappate le lacrime dal cuore e da quel giorno buio, dinanzi al tuo ricordo, per tutta l'esistenza, dovrò soffrire ancora la febbre del mistero che ho perduto.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem sur Radio Libertaire et nous sommes en compagnie de Michel Sidorov. Alors Michel Sidorov, bon, vous avez peut-être reconnu quel est l'auteur de cette poésie, je vous le dis, Cesare Pavese. Et Cesare Pavese, j'ai su que, homme de radio, la première émission dramatique que vous avez adaptée, c'était un livre de Cesare Pavese
une nouvelle.
Qui s'appelle L'Idole.
Une nouvelle. L'Idolo.
L'Idolo. Alors, pourquoi cette poésie d'abord, et puis pourquoi vous intéressez tant à Cesare Pavese?
Cesare Pavese, c'est ce qui m'a toujours plu, aussi bien dans son travail de roman que de nouvelles, que de poésie, dans Lavorare Stanca, par exemple, Travail et Fatigue. D'abord, c'est le climat. Alors, il y a le climat des jeunes qui sont désœuvrés dans la vallée du Pô. Enfin, ça, c'est des choses qui sont très, très émouvantes, qui se cherchent. Et puis, ce climat très, très particulier de sa poésie. D'ailleurs, c'est aussi par Pavese que je me suis rapproché de la langue italienne, parce que j'ai commencé à le lire en bilingue, et donc voilà. Et donc j'ai eu envie d'adapter L'Idole, et ça a été effectivement ma première fiction. C'était la fiction d'une fin de stage, une fin de formation. Et je remarque d'ailleurs que à l'époque, c'était les 6 nouveaux réalisateurs qui avaient passé le concours presque une année avant, parce qu'on a eu une formation très très sérieuse, hein, très très costaud, très dense. On tous fait un travail d'adaptation, donc déjà un travail d'auteur. Bon, pour moi, c'était un prolongement assez logique, parce que je suis venu à la radio par la poésie. J'avais d'abord j'avais fondé avec Michel Monat et Daniel Monat la revue Les Flamboyants, qui était proche du surréalisme. Et j'ai continué, bon, bien sûr, à écrire de la poésie. Et c'est la radio a remplacé pendant des années l'écriture de la poésie. Alors Pavese était un des relais, bien entendu, dans ce cheminement qui a été très important. Et puis ensuite, bon, la poésie est revenue, et elle est revenue à l'intérieur des scénarios que j'ai écrits, même, parce qu'il n'y a pas un seul scénario que j'écris, que ce soit une adaptation ou un scénario original, qui ne soit organisé autour d'un poème. C'est systématique, voilà.
Alors, la nouvelle de L'Idole, qu'est-ce qu'elle raconte?
Oh.
C'est peut-être intéressant de savoir.
C'est l'histoire quand même d'une déception. C'est l'histoire d'une déception, n'est-ce pas, entre un homme et une jeune femme qui n'est pas tout à fait à la hauteur de ses rêves, quoi. Et voilà. Donc cette idole, elle a une image assez, finalement, assez négative, voilà.
Alors, Cesare Pavese, je crois que pour ceux qui ne le connaissent pas très bien, et qui devraient le lire d'ailleurs, parce qu'il a écrit des livres très intéressants, il faut rappeler que dans sa jeunesse, il a été fasciste, comme beaucoup de jeunes à l'époque, dans les années 1920-1930, beaucoup d'écrivains, d'ailleurs italiens, Et puis, il est devenu antifasciste. Il était donc, on l'a nommé à la direction de la collection Einaudi, et là, il est devenu antifasciste, et bien sûr, il l'a payé très cher. Il l'a payé très cher pendant la guerre, et il s'est engagé ensuite, après la guerre, dans le Parti communiste. Et malheureusement, c'est un homme qui devait avoir beaucoup de problèmes, puisqu'il se suicide le 27 août 1950 dans une chambre d'hôtel à Rome. Alors ça, c'est une fin tragique qui fait que Cesare Pavese et chez les Italiens, ça parle. Mmh. Ça parle. Alors, vous m'avez dit donc que vous êtes venu à la radio par la poésie. Mais je crois que vous étiez professeur aussi avant, non ?
Oui. Oui, j'étais professeur pendant quelques années. Il se trouve que bon, je viens d'une famille très très modeste. Et pour payer mes études, à un moment donné, j'ai trouvé la solution de passer le concours de l'IPES, l'Institut de préparation aux enseignements du second degré.
Et après, on était engagés. Hein,
pour voilà, on était engagés. Alors ensuite, mon parcours a été assez chaotique parce que j'avais beaucoup d'admiration, de respect pour le métier de professeur. Mais en réalité, alors que je n'avais aucun lien avec le milieu artistique, je rêvais de... je rêvais de mise en scène. C'était ça. Et donc, j'ai fait du théâtre, amateur. J'ai pris des cours aussi, l'improvisation, des choses comme ça. Et à un moment donné, s'est présenté le concours, en 86... concours de réalisateur, et ça a été la grande révélation de ma vie.
Alors, à l'ORTF, c'était très sérieux, la radio. C'est quelque chose nous, qui étions de la télévision, on était considérés comme des saltimbanques par les gens de la radio, qui sont des gens très rigoureux, très sérieux. On était un peu... Et comme j'ai eu l'occasion de tourner, d'ailleurs, à Radio France, j'ai vu qu'effectivement, moi, j'ai été impressionné par la qualité et la recherche de la qualité, du moins à l'époque, j'ai tourné il y a 20 ans. Hein, peut-être que, aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose. Mais... il y avait une recherche de la qualité, y compris dans la qualité du son. C'est-à-dire que des ingénieurs se baladaient en France pour savoir si le son était bien reçu à tel endroit, Bon, ça nous avait fortement impressionnés. C'est dans cette ambiance-là que vous êtes rentré à la radio ?
Oui, c'est dans cette ambiance-là. Et c'était vraiment très, très stimulant. C'était à la fois très émouvant et très stimulant. C'était à la fois la rencontre avec effectivement une technique qui était à ce moment-là au sommet vraiment de la technique radiophonique, avec d'autres radios européennes comme par exemple la radio allemande qui produisait des choses tout à fait remarquables. En même temps, cette exigence dans le travail d'acteur, la direction d'acteur était quelque chose de vraiment d'essentiel. À la radio, on ne pouvait pas ne pas devenir directeur d'acteur, c'était impossible, sinon ça n'avait pas de sens. Et puis la qualité des textes, parce que bien sûr, tout ne se valait pas, et heureusement d'ailleurs, il y avait des textes pour tous les goûts, pour toutes les oreilles. Mais tout de même, quand je suis arrivé, on n'était pas loin de l'époque, on n'y était plus, mais on n'en était pas loin de l'époque où la radio était dirigée par des poètes. Il y a eu Philippe Soupeau, il y a eu Jean Tardieu, il y a eu des gens comme ça. Donc, évidemment, tout ça était très, très stimulant. Et quand on faisait une proposition, c'était Alain Trutat, réalisateur que vous avez probablement connu, et qui était en fait, la direction occulte des fictions et de tout un domaine documentaire aussi. Mais c'était extraordinaire parce que dès que vous faisiez une proposition qu'on jugeait intéressante, on vous poussait, on vous encourageait. Bon, moi venant du surréalisme, étant proche du surréalisme, j'avais une grande admiration pour Oscar Panizza, qui avait été effectivement défendu par André Breton. Panizza, donc l'auteur du Concile d'amour, qui est la pièce la plus anti-religieuse qui ait jamais été écrite. Et je savais qu'elle n'avait été montée qu'une seule fois au théâtre par Georges Lavelli. J'étais encore un jeune réalisateur, puisque c'était quand même en 94. J'ai formulé le projet de monter le Concile d'amour, et Alain Trutat m'a soutenu, Mais pendant, j'avais fait cette proposition avant 94, bien sûr. Et à chaque fois qu'il me rencontrait, il me demandait, mais quand est-ce que tu montes le Concile d'amour? Voilà les conditions dans lesquelles nous étions. C'était extrêmement, extrêmement stimulant. Et ensuite, il y avait une grande liberté, puisque la pièce fait 2h41 dans ma réalisation. On ne m'a jamais demandé de couper. Enfin, non. Absolument pas. Ça a été diffusé en été dans une tranche spéciale, bien sûr. Et j'ai eu des moyens considérables pour pouvoir la réaliser, bien sûr.
Oui, parce que beaucoup de comédiens travaillaient à la radio à l'époque.
Oui.
Parallèlement au théâtre ou au cinéma, mais ils étaient très présents à la radio.
Nous travaillions, et c'est encore le cas aujourd'hui, principalement avec des comédiens venant du théâtre. Un peu avec les comédiens du cinéma, mais bon, principalement avec les comédiens venant du théâtre, pour une question de technique, de maîtrise du texte, si vous voulez. Et c'est vrai que, par exemple, dans le Concile de l'amour, bon, j'ai fait appel à Daniel Gélin pour le personnage de Dieu, bon, à François Chaumette pour le personnage du pape, et à Edith Scobe pour le personnage de la vieille. Elle était absolument incroyable, Edith, c'était formidable. Et ces comédiens-là étaient enchantés parce que on pouvait les envoyer dans des espaces qui étaient tout à fait inhabituels. On travaillait en extérieur, mais j'ai enregistré toutes les scènes du ciel à la chapelle de la Sorbonne, par exemple, pour l'acoustique. Bon, c'est des choses qui ne sont pas tout à fait courantes. Quoi.
Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus difficile.
Je pense que certains de mes collègues réussissent encore à travailler de cette manière. Je sais que, étant donné que les studios sont en travaux, ils sont obligés de travailler souvent en extérieur. Donc, de ce fait, bien sûr, ça peut être intéressant. Voilà.
Alors, j'ai noté quelques titres. Meurtre pour mémoire de Didier Deninck, que vous avez adapté. La flèche jaune de Victor Pelvin.
Victor Pelvin, oui.
De Bethsaïda. Avec des poésies de Rimbaud.
Alors, Bethsaïda, c'est mon deuxième scénario original. Le premier, c'était La dérive des glaciers. Bethsaïda, c'est une histoire quand même très, très particulière parce que, en fait, tout remonte à l'écriture d'un article avec Henri Cottez, le grand lexicographe et lexicologue, qui était mon professeur de linguistique à la fac, à Paris 3. Et nous étions devenus amis. Et nous avons écrit ensemble, nous avions tous les deux une grande admiration pour Rimbaud, un article sur un poème en prose de Rimbaud qui commence de cette façon. « Bethsaïda, la piscine des cinq galeries, était un point d'ennui. » C'est une des trois proses dites évangéliques. Alors c'est drôle pour Rimbaud, parce que bon, il était pas religieux, mais parce que ce sont des poèmes en prose qui font référence à des épisodes de l'évangile de Jean. Donc c'est des proses johanniques, si vous voulez. Et nous avons fait une découverte qui a été la dernière découverte en date sur Rimbaud, c'est-à-dire que nous avons réussi à situer ce texte que personne n'avait situé, et nous avons établi un lien entre un tableau de Jean-Paul Laurence, vous savez, ce peintre d'histoire là, assez hiératique, bon, qu'on compare un petit peu au pompier, et ce tableau, c'était la piscine de Bethsaïda. Et nous avons élaboré plusieurs hypothèses et finalement nous avons mis d'accord sur l'hypothèse suivante, c'est que Rimbaud, avec d'ailleurs son ami Verlaine, Delahaye réunissait à Bouillon en Belgique, bon, tous les deux étaient complètement fauchés bien sûr, et Delahaye les nourrissait et leur apportait de la lecture. Eh bien, il a su par des revues qu'apportait Delahaye ce qui se passait à Paris autour de ce tableau qui avait déclenché une polémique. Parce que certains critiques trouvaient qu'il était un peu trop biblique et pas assez évangélique. Parce que Bethsaïda, ça peut être une référence biblique, c'est-à-dire la piscine probatique où les anciens Hébreux faisaient descendre les bêtes pour les purifier avant le sacrifice. Voilà. Et lui, Rimbaud, en fait, n'a pas vu le tableau. Alors c'est ça qui est très très curieux. Parce qu'il ne pouvait pas quitter Roche. Dans les Ardennes, il était chez la Moser, comme il l'appelait sa mère, et donc il ne pouvait pas prendre le train pour aller à Paris, il n'avait pas un centime, il était une pauvreté extrême, mais il a entendu parler du tableau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben voilà, nous on a établi le fait qu'il n'avait qu'un seul livre à lire, c'était la, la Bible familiale à la tranche Verschou, dont il parle dans Une saison en enfer, et il tombe sur, donc là, le Nouveau Testament, et non pas la Bible, le Nouveau Testament, avec l'épisode de l'évangile de Jean sur la piscine de Bethsaïda. Et il a écrit deux autres poèmes en se servant toujours de ces épisodes de l'évangile de Jean. Alors, des années après, malheureusement, Henri Cottès était décédé, on avait une très grande différence d'âge, j'ai eu envie d'écrire un scénario sur cet article. Cet article a été publié en 1992 dans la NRF. C'était Jacques Reda, le poète Jacques Reda, qui à l'époque dirigeait la NRF. Quand il a lu notre article, il a voulu le publier tout de suite. Enfin, on n'a pas eu le temps de souffler. C'était quand même assez drôle. Mais des années après, j'ai eu envie d'écrire un scénario. Et là, j'ai construit une histoire avec deux jeunes femmes. Bon, j'écris beaucoup pour des personnages féminins. On se plaint qu'il n'y a pas de rôle pour les femmes au théâtre ou au cinéma ou à la radio. Moi, j'écris quand même pas mal pour des personnages féminins. Et là, j'ai deux débutantes dans la vie. L'une qui étudie la linguistique, enfin les formants du vocabulaire scientifique avec Henri Cottès, donc il y a une référence à Henri Cottès, et l'autre qui est une jeune journaliste débutante dans les Ardennes, justement. Et j'ai tissé une histoire qui permet d'avoir une aventure dans les Ardennes et qui est liée à la question de la laïcité, justement. Donc, politiquement, il y a une orientation quand même bien, bien particulière dans le scénario et un dévoilement de ce qui s'est passé autour de ce poème de Rimbaud, qui est très beau, parce qu'il annonce... Ces trois poèmes en prose annoncent, en fait, les poèmes d'illumination. Il le faut, absolument.
Qui est un de nos poètes favoris. Alors, pour qu'on ait une idée un peu de ce que vous créez à France Culture, et qu'on trouve d'ailleurs, et j'ai trouvé ça, c'était très bien, sur YouTube, j'ai pu écouter quelques dramatiques. Ah. Bon, alors j'ai fait un petit montage que Pedro va nous faire écouter, un petit montage juste de quelques éléments de début d'émission. Alors, notamment, France Culture, Stendhal, parce que je sais que vous êtes un amoureux de Stendhal. Bon, on va écouter ce petit passage.
Le rouge et le noir. Chronique de 1830, de Stendhal. Feuilleton en 15 épisodes. Adaptation, Hélène Bleskin. Une réalisation de Michel Sidorov. La vérité sur le cas de Monsieur Valdemar, d'Edgar Allan Poe. Adaptation, Hélène Frappa, d'après la traduction de Charles Baudelaire. Une réalisation de Michel Sidorov. Les Anneaux de Bicêtre, de Georges Simenon. Avec la Comédie Française. Adaptation, Pierre Assouline. Une réalisation de Michel Sidorov. Le procès, de Franz Kafka. Feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique, David Zain Meyrowitz. Une réalisation de Michel Sidorov. Premier épisode, l'arrestation. Avec Stéphane Valency, Philippe Weissert, Bertrand Suarez-Pazos, Arnaud Bédouet, Evelyne Guimara.
Août 1914, partout la guerre fait rage. À Prague, le sentiment refoulé de haine qui existe entre Allemands et Tchèques conduit à une flambée des tensions. Dans la vieille ville, depuis sa fenêtre, Franz Kafka, rédacteur dans une compagnie d'assurance et écrivain à mi-temps, regarde un défilé et il ressent de l'envie et de la haine envers les combattants auxquels je souhaite avec passion tous les maux. Écrire chez lui où il habite avec ses parents est un enfer. Il est obligé d'exercer son travail d'écrivain uniquement la nuit. De plus, il vient de rompre ses fiançailles avec Felice Bauer après une vive altercation dans un hôtel à Berlin, hôtel qu'il décrit comme « cour de justice », événement qu'il appelle un procès. Pris dans la tourmente personnelle et aussi par des événements qui vont ébranler le monde, Kafka, une nuit, écrit la première phrase d'un roman qui va bouleverser le champ de la littérature pour le siècle à venir. Jemand musste Josefka verleumdet haben, denn ohne dass etwas Böses getan hätte, wurde eines Morgens gefangen. Quelqu'un avait dû calomnier Josefka, car sans rien avoir fait de mal, il fut capturé un matin. Très vite, il efface le mot gefangen, capturé, et le remplace par verhaftet. Donc, il est arrêté.
De l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire, vous venez d'entendre des extraits des réalisations de Michel Sidorov. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Michel Sidorov. Vous avez vu déjà, ça donne un petit aperçu de l'ambiance de vos dramatiques, et je conseille justement aux auditrices et aux auditeurs de Civis Pacem de justement d'aller écouter sur YouTube ces dramatiques qui sont quand même qu'on retrouve pas forcément maintenant dans les archives de Radio de France Culture, ce qui est bien dommage.
Je découvre des choses là. je ne savais pas qu'on pouvait les écouter de cette manière.
Et c'est très, très intéressant, enfin, j'en ai écouté deux ou trois, et justement j'ai été très impressionné aussi, notamment par le procès de Franz Kafka, et puis les feuilletons radiophoniques, par exemple, j'en ai un autre là qui est cité, Artemisia, qui est alors aussi en plusieurs épisodes. Mais comment arriver à faire 10 épisodes, 15 épisodes?
Alors oui, Artemisia, c'est vraiment une... Artemisia Gentileschi, c'est son véritable nom, parce qu'elle était la fille de Orazio Gentileschi. C'est une famille, finalement, de peintres caravagesques. Voilà. C'était un projet très, très important avec Andrea Fink. Nous avons été deux à écrire cela. Et pour ma part, j'ai écrit donc la moitié de ce scénario en liaison avec Andrea, mais tout en étant sur un cargo, parce que je suivais une résidence d'écriture sur un cargo à ce moment-là, en 2012. La SACD avait demandé à Radio France un auteur multimédia, et Blandine Masson, responsable des fictions, avait eu cette... Je trouve que c'est une très bonne idée. Elle m'avait proposé pour donc participer à cette résidence d'écriture sur un cargo entre Dunkerque et la Guadeloupe. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur le cargo, et j'ai lancé effectivement un certain nombre de scènes, de séquences, d'épisodes du scénario de Artemisia, qui n'est pas vraiment un biopic, hein. C'est une construction dramatique au long de la vie d'Artemisia, avec des éléments qui ont été retrouvés. Andrea en particulier avait retrouvé une correspondance qui venait juste d'être éditée d'Artemisia, une correspondance amoureuse extrêmement intéressante, et nous l'avons utilisée dans notre travail. Mais le scénario était à deux étages, on avait un couple de jeunes gens qui s'intéressaient à Artemisia et qui découvraient le peintre, et en basculaient ensuite au XVIIe siècle, voilà, selon un procédé scénaristique, enfin, qu'on connaît, enfin, qui est cette bascule. Ça a été un travail très très excitant. C'est une chose que je rêve d'ailleurs qu'elle soit, et Andrea Fink aussi en rêve qu'elle soit rediffusée, parce que je pense qu'on apprend beaucoup de choses sur Artemisia. Il y a un certain nombre de légendes même qui sont balayées. Bon, vous connaissez la peinture d'Artemisia, ce sont souvent des scènes bibliques très violentes, assez sanglantes, et en fait, comme elle avait été violée très jeune, Il y a une légende qui s'est construite selon laquelle sa peinture violente avec des hommes qui étaient égorgés, poignardés, etc., comme dans Judith et Holopherne, par exemple, dont il existe d'ailleurs plusieurs versions, c'était une sorte de vengeance contre la gente masculine. Et en fait, quand on étudie la vie d'Artémisia, sa correspondance, quand on s'intéresse à la peinture de l'époque, on s'aperçoit que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout par vengeance, parce qu'en réalité, elle aimait beaucoup les hommes.
Et voilà.
La situation du viol n'avait pas du tout entraîné chez elle un rejet de la gente masculine. Pas du tout. Mais, en revanche, les scènes violentes, à l'époque, dans chez le Caravage, par exemple, c'est le cas.
Ah oui.
On a beaucoup de scènes violentes, mais qui sont très théâtrales, parce que c'est la théâtralité dans la peinture à cette époque. Et c'est ça qui est la grande particularité de cette peinture. Voilà.
Alors, on va l'écouter. Donc, sur YouTube, on le trouve.
Ah bon ?
Oui, oui, vous allez pouvoir le réécouter.
Incroyable.
Et puis,
mais ce n'est pas le son.
Malheureusement.
De la radio. Voilà, c'est ça le problème.
C'est ça qui est très dommage. Et sur ce bateau, je sais que vous avez écrit autre chose. Vous avez écrit « Un homme dans la brèche ». C'est aussi sur le bateau. Alors, racontez-nous un peu cet homme dans la brèche.
Dans la brèche, je l'ai terminé, en fait, sur le cargo. C'est un cargo, finalement, c'est pas mal, parce que...
ça va pas trop vite.
Les résidences sont parfois organisées dans des châteaux, voire même dans des monastères, enfin des lieux comme cela. Mais on est un peu dans sa cellule, quoi, dans la cabine, et on ne peut pas faire autre chose que de travailler. Cela dit, j'enregistrais quand même beaucoup de sons, malgré tout, sur le bateau, donc j'ai énormément travaillé. Nous avons aussi pas mal déliré, tous les six, on était une fine équipe sur le bateau, et en particulier nous avons organisé une révolte sur le bateau, et nous avons pris avec le commandant et l'équipage les commandes en quelque sorte pendant quelques jours. C'était très très drôle.
Alors parlons un petit peu de la courtine. Parce que ça m'intéresse beaucoup, étant donné
que... Voilà, ça, c'est un homme dans la brèche, ça.
Voilà, un homme dans la brèche, la mutinerie des soldats russes en 1917.
Voilà. Eh bien, d'abord, il y a un ouvrage remarquable qui avait été publié aux éditions L'Harmattan, d'ailleurs, sur les derniers, ça s'appelle « Les derniers de la guerre », sur la courtine, et... l'auteur, d'ailleurs, que j'ai rencontré plusieurs fois, était intéressé par ce travail radiophonique. J'ai su l'existence, en fait, de cette chose-là en allant à Gensiou lors d'un rassemblement du 11 novembre. Et à ce moment-là, des gens m'ont parlé de l'insurrection des soldats russes, et j'ignorais à l'époque ces faits. Et donc, je me suis renseigné, et j'ai eu envie d'écrire un scénario. J'ai écrit un premier scénario pour France Inter, d'ailleurs, pour Au fil de l'histoire, qui s'appelait Les oubliés de la courtine. Mais ensuite, j'ai eu envie d'écrire un scénario de plus grande dimension. Et ça a été un homme dans la brèche. En fait, je suis parti de l'action suivante. Je m'intéresse à la situation de l'individu dans l'histoire. Bon, c'est vrai que c'est assez banal, mais chaque individu est confronté à l'histoire et doit prendre position. Et là, je me suis posé la question, si un jeune Français se trouvait parmi les soldats russes dans le camp de la courtine, parmi les mutins de la courtine, eh bien, quel camp choisirait-il ?
Est-ce qu'il faut rappeler d'abord pourquoi ces soldats russes se trouvaient à la courtine ?
Alors, pourquoi
pendant
c'est que...
Pendant la guerre de 14-18.
Exactement, c'est ce que beaucoup de gens ignorent. En 1915, l'État français a acheté, en quelque sorte... 20 000 soldats russes à la Russie du tsar, de Nicolas II, en 1915. Elle les a achetés contre des vieux fusils, qui étaient de très très mauvaise qualité. D'ailleurs, le tsar s'est fait vraiment avoir dans cette affaire. Et ces soldats ont été envoyés en France, sont arrivés pour la plupart par la route du sud, par la mer, à Marseille. Et après, déjà, des premiers incidents, très graves d'ailleurs, à Marseille, où il y a eu déjà une opposition entre la troupe et les officiers russes, parce que la troupe ne pouvait pas sortir, et les officiers à Marseille allaient au bordel, et à un moment donné, alors et nous ? Demandait les parce que c'est ça qui se passait à cette époque. Ça se passait comme ça. Il faut se représenter un petit peu l'époque. Eh bien, à la suite de ça, ils ont été envoyés donc au front. Et puis il y a eu pas mal d'offensives, beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Il y a eu les offensives Nivelles, qui ont été une catastrophe, bien sûr. Et en mai 1917, le 1er mai 1917. Un des deux régiments, a commencé à se mutiner. Ils ont réquisitionné la voiture d'un colonel, placé des drapeaux rouges dessus, et sont partis, avec leur orchestre, faire la tournée des régiments. Alors évidemment, pour les gradés français, c'était catastrophique, parce que...
Il faut rappeler quand même qu'il y avait eu la révolution en
exactement
Russie.
C'est que... La révolution avait commencé en février 1917. Et à partir de février 1917, les soldats, d'abord, n'étaient plus soumis à des châtiments corporels, ça c'est très important, parce que c'était épouvantable dans l'armée du Tsar. Mais ensuite, ils avaient le droit de former des conseils, qu'on appelle en russe « soviets ». Et alors ces soviets ont évolué. Bien sûr, au départ, ils étaient très modérés vis-à-vis du pouvoir du tsar, puis du gouvernement, très vite du gouvernement provisoire. Et puis ensuite, ils se sont peu à peu radicalisés à gauche. Et c'est cette évolution qui s'est produite dans ce régiment. Alors, à partir de là, les généraux russes qui restaient... profondément tsaristes, bien entendu, et tout à fait réactionnaires, se sont concertés avec les généraux français. Il y a eu des discussions entre le général Comby et le général Pétain, il n'était que général à l'époque, et qui était un spécialiste des mutineries, parce que on sait comment ça s'est passé à Craon, n'est-ce pas ? Et Pétain, lui, qui était malin, était favorable au fait d'éloigner les soldats russes du front, parce qu'ils étaient un foyer révolutionnaire, bien sûr. Ils craignaient beaucoup la contamination. Alors, ils ont été envoyés à la Courtine, à côté de Gensioux, donc dans la Creuse. Et là, c'est-à-dire qu'il y avait des prisonniers allemands qui ont été envoyés ailleurs. Ils étaient 10 000 dans ce camp. Les gradés avaient peur, quand même, parce qu'ils leur ont pris leurs canons, mais ils leur ont laissé quand même les mitrailleuses. C'est très particulier comme situation. Mais ils les ont encerclés et ils les ont affamés. Il y avait très 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 peu de nourriture. Et le phénomène très intéressant qui s'est produit, c'est qu'il y a quand même une partie de la population française autour du camp de la Courtine qui a été solidaire et qui a apporté de la nourriture aux soldats russes. Parce que, tout simplement, il y avait un rejet de la guerre dans la population. C'est ce que l'histoire, dans les manuels, ne nous apprend pas. Bien sûr. Donc j'ai construit une situation avec un Français qui, démobilisé parce qu'il a été blessé à la guerre, parce qu'il est d'origine russe, il connaît le russe et on l'utilise comme interprète. Bon, en réalité, dans l'histoire, il n'avait pas besoin d'interprète parce qu'il y avait un certain nombre d'entre eux qui avaient appris à parler le français, etc. Mais là, j'ai créé une situation avec un jeune Français. Et ça permet effectivement de révéler les discussions qui ont lieu dans le soviet de la Courtine, les problèmes d'orientation, le questionnement face à l'exigence des gradés russes et des gradés français qu'ils se rendent enfin et qu'ils acceptent de retourner au front. Ils refusent. Et début septembre, pendant 4 jours, ils sont bombardés.
Et il y a eu énormément de morts.
Ah oui, il y a eu au moins 200 morts. Au moins 200. On a su qu'un wagon de chaux avait été apporté au camp de la Courtine. Et c'était évidemment pour recouvrir les cadavres. Parce que dans un premier temps, les soldats russes, dans un esprit tout à fait pacifiste, ont refusé de répondre au bombardement. Leur réponse, ça a été de jouer avec leur orchestre. C'était extraordinaire. Et ça, c'est évident, ça a compté dans ma construction dramatique, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils ont joué? Ils ont répondu aux obus qui leur tombaient dessus, qui les tuaient. Tout le monde n'était pas tué, mais il y avait un certain nombre qui étaient tués. Ils ont répondu par une interprétation de la marche funèbre de Chopin. Et puis, ils ont joué la Marseillaise, bien sûr. À la Marseillaise, les Français ne se rendent pas toujours compte de cela, mais pour eux, ça avait un sens vraiment révolutionnaire, alors que pour nous, c'est devenu le chant vraiment des Versaillais contre la Commune. Bon, dans ma construction, je leur fais jouer aussi l'International. Je me suis pris cette liberté pour que les Français comprennent la couleur révolutionnaire un peu plus. Mais je me suis servi de l'orchestre aussi comme élément perturbateur. C'est-à-dire que quand les Français veulent organiser une fête patriotique dans la commune de la Courtine, il y a l'orchestre qui n'est pas très loin et qui fait beaucoup de bruit et qui perturbe effectivement la fête patriotique. Voilà.
Eh bien, Michel Sidorov, c'est aussi quelque chose qu'il faut écouter, mais alors là, on ne le trouve pas sur YouTube. J'ai essayé d'aller le trouver.
Alors, la Libre Pensée, a organisé des écoutes en province. Et ça, c'était tout à fait, c'était vraiment émouvant, parce que ça permettait aussi d'entrer en contact avec des auditeurs et aussi des gens qui n'étaient pas encore auditeurs de fiction radiophonique et qui pouvaient découvrir par ces écoutes en public, exactement comme on le fait dans un auditorium, la fiction.
Alors, on va écouter maintenant un autre poète, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un poète qui s'appelle Eugène Bizot. Un poète sur lequel j'ai fait un film il y a très longtemps, qui était un vigneron, qui a été, pour la guerre de 14, il a été dispensé de la guerre de 14 pour faiblesse de constitution. Et il est mort à 105 ans. Donc nous avons fêté son centenaire, et il disait des poèmes. Il a écrit beaucoup de chansons au début du XXe siècle, notamment avec La Muse Rouge. Et ensuite, il a continué à écrire des poèmes. On va écouter Eugène Bizot.
Rouge. Israël, d'oublier. Déjà, la muse rouge a payé cher, hélas, l'orgueil des êtres fous. Quand le peuple épuisé rentrera dans son bouge, combien auront subi le même sort que vous? Qui donc a retenu les chants de vos goguettes? Qui donc a murmuré les vieux couplets des fins? Qui donc, au pilori, destine les conquêtes du crime universel voulu par quelques-uns? En affrontant ainsi, l'horreur de la bataille, vous, les champions fervents de l'idéal meilleur, dans le pain noir des jours que le malheur nous taille, vous avez eu tous deux la part du travailleur. Adieu, bon chansonnier, les muses bien chagrines vous donneront toujours les pleurs qui vous sont dus, et votre souvenir vivra dans nos poitrines, avec le désespoir de vous avoir perdu.
L'oiseau dans la lumière disait son chant joyeux, sa voix vibrante et fière s'élevait dans les cieux. Il chantait l'allégresse du cœur à ses 20 ans, il chantait la jeunesse, l'amour et le printemps. C'était une chanson de vie, c'était une chanson d'espoir. De l'aurore au rayon du soir, il célébrait la vie. De l'aurore au rayon du soir, il célébrait la vie. Mais soudain la tourmente de la guerre a passé, couvrant la voix qui chante, le canon s'est dressé, fauchant sous la mitraille, l'espérance en sa fleur, sur le champ de bataille, il coucha le chanteur. Il ne chantera plus la vie, il ne chantera plus l'espoir. Sa voix s'est tue avant le soir au chantre de la vie. sa voix s'est tue avant le soir au chantre de la vigne. Cependant que notre âme triomphe des douleurs, que du passé la flamme survive dans nos cœurs, et sève salutaire que le sang des martyrs d'une juste colère féconde l'avenir. Nous chanterons encore la vie, nous chanterons encore l'espoir. L'aube renaît après le soir, tournons-nous vers la vie. L'aube renaît après le soir, tournons-nous vers la vie.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Michel Sidorov, réalisateur de radio, responsable de la Libre Pensée Paris, c'est bien ça, hein, je ne me trompe pas. Et là, vous venez d'écouter un poème de Eugène Bizot, un qui s'appelle « Après les tombes », et puis ensuite un chanson, un poème chanté de D'Oublier, « L'oiseau chantait la vie ». Alors, écoutez Bizot, le film que j'avais fait en 1981, rappelait justement tout cet itinéraire d'Eugène Bizot que nous avions tourné lorsqu'il avait 99 ans. L'historien s'inquiétait, pensant que peut-être c'était trop tard. Eh bien non, Eugène Bizot est décédé à l'âge de 105 ans. Alors on a fêté ses 100 ans, ses 101 ans, ses 102 ans. Et notamment, ceci, ça se passait au festival de la chanson de Bourges, où il avait été invité, il avait 100 ans, et il disait encore ses poèmes devant un grand public.
Le pacifisme, ça conserve, quoi.
Et aussi le vin. Parce qu'il était vigneron, et il avait de très bonnes vignes, et lorsqu'on allait le voir, bon, il fallait après rentrer en voiture à Paris, ce qui n'était pas toujours facile. Alors, Michel Sidorov, vous dites « J'ai toujours été opposé à la guerre », et vous avez fait partie d'ailleurs de l'appel des 75 contre la guerre du Golfe. Alors là, ça a été signalé avec
comme
François
vous.
Chaumette, comme moi, oui. Là, à l'époque, j'étais aussi en train de tourner avec sur le film sur René Dumont, qui lui aussi était un antimilitariste. Et puis avec aussi Denis Langlois, Gisèle Halimi, etc. Donc vous vous souvenez bien de cet appel des 75, comment ça s'est passé?
Comment ça s'est passé Ça a été, un surgissement. Nous avions pris des précautions pour ne pas révéler l'existence de l'appel avant d'avoir recueilli, bien sûr, les signatures. Hein. Mais ça a été vraiment un surgissement parce qu'on était dans une période de propagande et de consensus organisé pour la guerre, absolument. Une période effrayante. Enfin, vraiment, on a connu plus tard, d'ailleurs, l'équivalent avec la deuxième guerre du Golfe, n'est-ce pas, et les prétendues armes de destruction massive de Saddam Hussein qui n'existaient pas, bien sûr. Bon, là, c'était autre chose. Il y avait la provocation, n'est-ce pas, de l'occupation du Koweït, dans laquelle était tombé, bien sûr, Saddam Hussein, n'est-ce pas? Bon, là, les États-Unis l'avaient fait tomber dans cette provocation, et la guerre a été déclenchée à l'époque. Le gouvernement français, c'était Mitterrand qui était président, collaborait complètement, bien sûr, à cette guerre. Donc ça a été quand même assez sportif, parce que déjà à cette époque, quand vous étiez contre la guerre, très vite était pratiqué un amalgame. Ah ben, c'est comme l'extrême droite, comme Le Pen, ils sont aussi contre, donc vous êtes avec eux. Donc il y avait constamment ce chantage, cette pression. C'est assez pénible, mais bon, ça ne nous a pas impressionné plus que cela. Et ça a été l'occasion de rencontrer des gens tout à fait remarquables. D'abord, Denis Langlois, qui faisait un travail vraiment formidable pour animer, lancer l'appel des 75. Et puis les signataires, des gens à qui j'ai proposé l'appel. Bon, il y avait des jeunes comédiens comme Olivier Peignet, qui vraiment, comme moi, a appris beaucoup de choses dans cette situation, parce que bon, il s'occupait de la presse, c'était pas facile. Hein.
Oui.
Et puis, François Chaumette, bon, qui était un comédien bon, chevronné, très, très connu, bon, qui était devenu un ami, on avait travaillé ensemble sur les dialogues de Platon. Il était mon Socrate, en fait, dans deux dialogues de Platon, et ça a été le début d'une amitié tout à fait extraordinaire. Et François Chaumette, dont la santé était déjà très très menacée, participait aux réunions et aux manifestations. Il était dans un état de révolte contre la guerre, mais considérable. Enfin, c'était vraiment remarquable. Moi, ce qui m'avait frappé dans cette bataille, qui a duré plusieurs mois, c'est l'aspect bon démocratique à l'intérieur de l'appel des 75, parce que il y avait les signataires et les organisations suivaient les signataires. L'appel des 75 n'était pas dépendant des organisations. Par exemple, dans une manifestation, les signataires étaient devant et les responsables de partis politiques derrière. Et quand il y avait des moments émouvants, par exemple à la Bourse du Travail, quand nous nous réunissions, nous avions en face de nous les organisations, on avait l'impression d'un parlement, parce qu'il y avait un très grand nombre d'organisations. À un moment donné, il y en avait une centaine. C'était considérable, vraiment. Et des gens d'origine très différente. Je me souviens en particulier de relations vraiment très chaleureuses, très émouvantes, avec des militants et des militantes kurdes, par exemple, qui étaient tout à fait remarquables, et qui participaient à la bataille avec une régularité, une droiture, enfin, vraiment remarquable, quoi. Vraiment, c'est un très, très grand souvenir. Et en même temps, ce qui est terrible, c'est que il y a eu, à un moment donné, un basculement, parce que la direction de l'URSS s'est rangée derrière l'ONU et a permis la guerre, a permis l'attaque, et on a vu les dirigeants du Parti communiste français suivre, et donc abandonner complètement la bataille en rase campagne. Hein. C'était impressionnant.
Alors à l'époque, il y avait quand même beaucoup de monde contre la guerre, et aujourd'hui, il y en a moins. Il y en a beaucoup moins.
Est-ce bien sûr ?
Être pacifiste aujourd'hui, c'est quand même pas très simple. Vous êtes devenu pacifiste, antimilitariste. C'est quand même votre nom permet de savoir que vous avez des origines russes
Et polonaises.
Et polonaise, votre père
était... Et j'ai eu un oncle ukrainien.
Ah, un oncle ukrainien. Donc, aujourd'hui, on voit aussi que lorsque on demande un cessez-le-feu, lorsqu'on demande plutôt de s'organiser pour la paix entre ces deux puissances que sont, disons, la Russie d'un côté et l'OTAN de l'autre, parce qu'on peut dire que ce qui se passe en Ukraine, malheureusement pour les Ukrainiens, c'est plutôt une guerre par procuration. Donc, comment vous le ressentez aujourd'hui de vos idées pacifistes par rapport à ce conflit ?
Pour moi, c'est la confirmation, évidemment, des idées pacifistes. C'en est la confirmation de l'antimilitarisme aussi, parce que c'est aussi être antimilitariste que de demander l'accueil des déserteurs, qu'ils soient ukrainiens, russes ou d'ailleurs. Oui. Et puis, c'est aussi, ça a été, surtout il y a 3-4 mois, vraiment un choc de voir en France des institutions se retourner contre des artistes russes, par exemple. C'est absolument choquant, enfin, c'est quelque chose d'absolument inadmissible. Enfin, et là, on retrouve un peu ce qui se passait pendant la guerre de 14, hein, la germanophobie. Que Proust dénonce d'ailleurs, lui est tout à fait opposé à ça. C'est une chose qui est terrible, parce que quand on, je n'ai pas d'appartenance culturelle particulière. Je pense que la culture est mondiale. Mais il est vrai que la culture russe, la littérature russe, la musique russe, etc., le cinéma Oui, ça m'intéresse beaucoup. Bon, il y a bien sûr beaucoup de choses qui doivent absolument être défendues dans cette situation. Et là, on voit que très vite la barbarie revient. Et la barbarie, c'est la destruction de l'art, la destruction de la culture, forcément, puisque c'est la destruction de l'humanité. Et l'humanité, qu'elle soit ukrainienne ou russe, elle y passe dans cette affaire. Alors, pour moi, les prises de position de la libre pensée contre la guerre, c'est fondamental. C'est fondamental. C'est vraiment la chose que nous partageons avec l'Union pacifiste et avec de nombreuses organisations, hein, en particulier les organisations libertaires, bien sûr, mais pas seulement. Et ça, c'est une chose, l'affirmation de ces principes. C'est la première chose, je crois. Et puis, il y a l'aspect pratique, c'est-à-dire quel levier trouver ? Quel levier ? Et moi, il me semble que là, c'est quelque chose qui dépasse même nos organisations pacifistes, mais qui concerne ce qu'il faut bien appeler la lutte des classes. C'est-à-dire que la guerre entraîne la misère. Et c'est contre la misère qu'il y a des manifestations en Allemagne, qu'il y a des manifestations en Italie. Et elles sont considérables, ces manifestations. Je pense qu'elles viendront ici. Je pense que les choses vont s'éclaircir. Parce que il y a d'abord cette exigence de cesser le feu, cette exigence de négociation. Et puis, petit à petit, l'exigence de non-livraison d'armes, d'arrêt des crédits de guerre qui entraîne la misère, n'est-ce pas, qui provoque l'inflation, qui entraîne le pillage des conquêtes sociales, par exemple le projet de réforme des retraites, c'est un projet de pillage. Et d'ailleurs, le responsable du MEDEF a bien dit, ah ben voilà une bonne occasion de financer l'aide à l'Ukraine, vous vous rendez compte? Mais les retraites, c'est une partie de la sécurité sociale. La sécurité sociale, d'abord, ce n'est pas l'État.
Absolument.
C'est comme une vaste mutuelle. C'est ce qui appartient aux travailleurs, aux salariés. Et cela, ils veulent le voler. Ils veulent le piller. Je ne pense pas que la population française va se laisser faire, que la population travailleuse va se laisser faire. Là, ils tentent un coup de force, là, dans les jours qui viennent, à l'Assemblée nationale. Ils tentent de faire passer en catimini, la retraite déjà à 64 ans, mais bon, les gens sont conscients, les choses ne vont pas se passer gentiment. Et je pense que ce qui se passe en Italie, qui a été formidable, ce qui se passe en Allemagne, mais qui a été très très peu relayé par la presse ici, bien sûr, il y a un blackout incroyable, eh bien, va se produire immanquablement en France, immanquablement. Et là, le levier pour l'arrêt de la guerre, il existe. Parce que tout de même, on n'est pas en 1914. Il y a en Allemagne, par exemple, de très nombreux députés de Die Linke, avec Sarah Wagenknecht et d'autres, qui sont dans la bataille contre la guerre. On n'est pas au tout petit nombre de députés français qui avaient refusé de voter les crédits de guerre. On n'est pas dans la réalité allemande avec Karl Liebknecht seulement, mais avec, bien sûr, une toute autre situation. Donc, bon, c'est peut-être ma nature optimiste, mais je pense que le combat est possible.
Alors nous, justement, l'Union pacifiste, on commence par la jeunesse. On va rappeler notre opposition au service national universel. Et on pense effectivement qu'il y a encore ce matin, j'entendais dans le Nouvel Observateur, Mme Sarah Leary qui dit, Mme Sarah Leary s'active pour le service national universel. Et lorsqu'il sera obligatoire pour tout le monde, on avait pensé à 700 000, ben non, ça fera 850 000 jeunes, filles et garçons. Et justement, ce que propose Mme Sarah El-Eiri maintenant, c'est que ça fasse partie du temps scolaire, le service national universel. C'est-à-dire que déjà l'armée est présente dans les écoles, mais qu'elle le sera encore un peu plus. Alors naturellement, on sent bien qu'on prépare cette jeunesse à ce qui risque de lui arriver, c'est-à-dire qu'un beau jour, le service militaire qui a été suspendu, et non pas annulé, qui a été suspendu, peut être remis en route. D'ailleurs, c'est demandé par certains hommes politiques en se disant, bon, ben, s'il faut le remettre, on le remettra. Et alors, bon, on a quand même la chance d'avoir un peu quelques relais maintenant dans l'Assemblée nationale. On a le relais de députés écologistes de la NUPES, Benjamin Lucas et Sandra Regol. On a bien sûr notre ami maintenant Rodrigo Arenas, qui lui justement avait publié, lorsqu'il était président de la Fédération des parents d'élèves, la FCPE, il avait publié un article qui s'appelait « SNU garde à vous fixe ». Alors déjà, il s'était opposé à ça. Et là, notamment lorsque nous l'avons contacté, nous, le collectif de non au SNU, il nous a répondu « Je compte porter le débat sur le SNU dans les semaines à venir par la voie législative et budgétaire. N'hésitez pas à me faire parvenir des informations, etc. Je suis preneur. » C'est-à-dire que c'est plutôt dans ce domaine-là de l'économie qu'il va peut-être essayer de le faire avancer. C'était aussi la première idée de notre ami Sylvain Garel des Verts, lorsque il fait partie de notre collectif, et il nous avait dit « mais ça coûtera trop cher et on va l'arrêter ». Mais apparemment, non, ça ne coûte pas encore assez cher, même si on prévoit plus d'un milliard quand il y aura, justement, quand ça deviendra obligatoire. Mais quand ça deviendra obligatoire, peut-être qu'à ce moment-là, les jeunes réagiront davantage. Parce que pour l'instant, ça fait partie des volontaires. Et on essaie de les séduire. On prépare aussi dans la gendarmerie, les mouvements sociaux qui risquent de se produire, c'est-à-dire qu'on les prépare aussi à une guerre civile, si on peut dire, les jeunes.
Bien sûr. La guerre, c'est d'abord, ça a été déjà expérimenté au cours des deux grandes guerres impérialistes, mais la guerre qui est actuellement en train de s'installer, elle a toujours ce caractère impérialiste, mais une particularité, c'est que, visiblement, les dirigeants veulent créer un état de guerre permanent. Il y a quand même un amiral, je ne sais plus son nom, j'ai oublié son nom, qui est le chef de la stratégie américaine, qui vient de déclarer « Oh, mais l'Ukraine, ce n'est qu'un échauffement ». C'est proprement terrifiant. On a quand même la présidente de l'Union européenne qui dit non, mais pas question de cesser le feu, parce qu'il y a des enjeux très importants derrière. Ce sont des enjeux, évidemment, économiques, bien sûr. Il y a le pillage de l'Ukraine, d'ailleurs, qui a commencé, puisqu'on a déjà quand même les deux tiers des terres agricoles, ils sont ô combien des terres riches, on le sait bien sûr, deux tiers des terres agricoles d'Ukraine qui appartiennent à des sociétés américaines déjà. Quand même là, situation de colonisation évidente, bien sûr. Mais leur objectif, c'est le pillage de la Russie aussi, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de richesses naturelles. Et la politique de Poutine, cette aventure, mais alors complètement criminelle dans laquelle il s'est lancé, a ouvert la porte à l'ONU, bien sûr. En cela, Poutine trahit complètement les intérêts de la population russe. C'est absolument épouvantable. Il est absolument au même niveau qu'un Zelensky, de ce point de vue. Ils n'ont rien à s'envier l'un l'autre, vraiment. D'ailleurs, ils sont tous les deux issus de la même oligarchie bureaucratique, enfin d'origine stalinienne et totalement corrompue. On sait ce que c'est que ces gens-là. Mais voilà, la situation, elle est extrêmement grave, et la jeunesse n'est pas encore complètement consciente, pour une raison d'ailleurs, une raison bien simple, c'est que, d'une part, bon, les jeunes qui ont été sélectionnés qui se sont portés volontaires pour le SNU étaient, pour un grand nombre d'entre eux, des enfants de policiers, de gendarmes et de militaires. Bon, déjà, c'est quand même très particulier. Et puis, les enseignants, on les a privés des moyens de réagir. Enfin, tout de même, vous avez organisé l'Union Pacifiste, une remarquable réunion à laquelle nous sommes venus le 11 novembre après-midi à la librairie Publico, librairie Fédération Anarchiste. C'était extrêmement intéressant parce que moi, j'ai entendu quand même des enseignants intervenir et dire, mais enfin, c'est incroyable. Il y a quelques années, personne n'aurait imaginé qu'un policier ou qu'un militaire puisse entrer dans un établissement scolaire. Impensable.
Sans l'accord des enseignants.
Sans l'accord des enseignants, c'était totalement impensable. Aujourd'hui, à la fois, les règles, mais aussi les habitudes ont été modifiées. Les chefs d'établissement se permettent des choses absolument effrayantes, parce qu'ils sont de plus en plus, évidemment, au service du pouvoir. Hein. Les choses ont évolué d'une façon très, très négative. Alors, les jeunes, souvent, ne sont pas au courant. Nous avons diffusé devant les universités, contre le SNU, la Libre Pensée de Paris. On a commencé un travail auprès des jeunes, et là, on a l'intention d'aller beaucoup plus loin. Mais c'est vrai, on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas au courant.
Et voilà. On a encore beaucoup d'informations à faire. C'est pour ça qu'on le fait avec nos modestes moyens. Mais on continue. Alors, Michel Sidorov, on a discuté pendant un bon bout de temps. Là, maintenant, on arrive à la fin de notre émission. Donc, d'abord, je vais vous remercier d'avoir accepté notre invitation, parce que,
Alors, mais moi, vraiment, c'est moi qui vous remercie.
De France Culture à Radio Libertaire, le chemin, maintenant, vous est ouvert.
Et puis, pour la libre pensée, vraiment, de Paris, vraiment, vous remercie. Enfin, c'est vraiment la manifestation, pour moi, d'un esprit fraternel. C'est cela.
Alors, nous allons faire quelques annonces pour terminer cette émission. Je dois signaler d'abord que samedi 19 novembre à 17h30 à Montpellier, dans ce qui s'appelle la Carmagnole, il y aura une projection débat autour du service national universel aussi. Et puis, où seront présents la CNT, Sud Éducation, la Libre Pensée 34, le NPA 34, etc. Enfin, il y en a au moins une vingtaine, je ne les ai pas tous cités. Il y aura aussi dimanche 20 novembre à Blois la projection d'un film dont on vous a déjà parlé, de monsieur Pedro Fidalgo, qui s'appelle N'écoutez pas nos traces, et cette projection se fera aussi en présence de Dominique Grange et de Tardy. Ensuite, je voulais aussi signaler la sortie d'un livre qui est sorti ce mois-ci, Cabu, Abat toutes les guerres, qui a été édité par Les Échappés, c'est-à-dire les éditions de Charlie Hebdo, et qui est donc en vente, qu'on peut trouver partout, et ça fera un cadeau peut-être de fin d'année. Et nous signalons aussi notre petite brochure qui a été éditée il y a quelques années déjà, Merci Cabu, par l'Union Pacifiste. C'était les unes des journaux de l'Union Pacifiste, puisque Cabu, très proche, très antimilitariste, proposer des dessins pour les couvertures de l'Union Pacifiste. Et puis je pense qu'on va terminer cette émission encore avec Michel Buller qui chante une chanson qu'il a chantée souvent aussi pour l'Union Pacifiste, et un chant qui s'appelle « Je me bats » de Michel Buller. Et on termine l'émission là-dessus, ça fera notre musique de générique. Et encore merci Michel Sidorov.
Même si l'heure est parfois à la désespérance, attendu que la frime gouverne et fait sa loi, même si les années dans lesquelles on s'avance ont la couleur du triste et du chacun pour soi, même si le bonheur n'est plus une évidence mais semble s'éloigner à chacun de nos pas, même si l'on me dit que c'est perdu d'avance, que le monde est ainsi et qu'on n'a pas le choix, je me bats. Même si maintenant c'est être en résistance et risquer d'être seul que d'élever la voix, pour dire sans relâche l'incroyable arrogance des plus riches que tout, des maîtres d'ici-bas, même si le normal c'est l'infinie souffrance des enfants décharnés aux yeux vidés sans joie, même si le correct se nomme indifférence, même s'ils parlent fort, ceux qui baissent les bras, je me bats. Je suis d'un temps d'espoir, d'un temps de délivrance, où l'on osait rêver, et les peuples là-bas faisaient tomber leurs chaînes et brisaient le silence. Oh, les jolis printemps, oh, parfum de lilas, devant nous se levaient des matins d'innocence. Plus jamais il n'y aurait d'humiliés, de parias, plus jamais d'esclavage et plus de violence. N'était-ce pas simplement raison? Dites-moi, je me bats. Aujourd'hui, les passants, sous les néons sinistres, vont chacun dans leur bulle et pressent un peu le pas. Les voyous brassent l'or, les bornés sont ministres, et l'on met chapeau bas devant les renégats. L'époque est au commerce, l'époque est aux combines, l'homme n'est plus qu'un objet que la finance broie. Le futile et l'idiot remplissent les vitrines, cependant qu'au lointain ricane l'argent roi, je me bats. Avec mes pauvres mots qui sont mes seules armes, avec les sacrifiés, les vaincus d'autrefois, tous ceux qui n'avaient rien que leur sang et leurs larmes, les mineurs, les canuts, les pioupiou, les sans-droit, avec les femmes usées, petites sœurs de misère, des bas quartiers debout où se terrent les rats, avec tous ceux d'ici qu'habite la colère, avec les méprisés et ceux qui n'oublient pas, je me bats. Si longtemps que j'aurai la force, qu'on le sache, de me tenir debout, de chanter, d'être là, tant qu'il me restera une once de panache, tant que dans mes veines un sang rouge coulera, je me battrai encore et toujours et sans cesse pour saluer la vie qui palpite et qui bat. Et quand je m'en irai, ce sera sans tristesse, puisque d'autres viendront qui diront après moi, je me bats, je me bats.